18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, vous le savez c'est toujours un plaisir de vous retrouver, on est mardi et mardi aujourd'hui, on est ensemble pour commenter tout ce qui se passe au sommaire de ce que je vous propose dans votre émission de 18h à 19h30, eh bien chers amis auditeurs partout en France, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça c'est une très bonne chose. Au sommaire de cette émission, eh bien on va consacrer, vous savez, plusieurs sujets d'actualité avec vous pendant une demi-heure, vous les auditeurs au 01 53 48 3000, vous pouvez m'appeler tout de suite d'ores et déjà, Giovanni est prêt à vous accueillir au standard, faites-le exploser dans tous les sens. On va parler de deux sujets. Le premier, évidemment, c'est de pensez-vous que le Ballon d'Or est mérité pour Karim Benzema? Bon, moi j'ai eu des discussions avec les uns et les autres. Certains m'ont dit oui, d'autres m'ont dit non, d'autres m'ont dit c'est la consécration, d'autres m'ont dit pas du tout mérité. Eh bien, je voudrais vous écouter pour me dire, est-ce que vous pensez que Karim Benzema mérite amplement ce sacre du Ballon d'Or? Venez en parler au 01 53 48 3000. Et ensuite, je ferai appel à tous les chauffeurs Uber. Pourquoi? Parce que on m'a envoyé un message. Mercredi dernier, le 12 octobre, une jeune femme de 24 ans échappe au pire. Et puis derrière, M6, en pleine info, on se rend compte qu'il y a toute une série de jeunes femmes qui ont été victimes, écoutez bien, de tentatives d'enlèvement. Bon, alors sur Instagram, sur Facebook, partout, elles ont commencé à publier, évidemment, leur périple. Alors, harcèlement de rue, agression, parfois même on parle de viol. Bon, alors Uber, si vous nous écoutez, les chauffeurs d'Uber, j'aimerais que vous nous fassiez part, évidemment, de tout cela, parce que c'est un sujet qui fait scandale aujourd'hui. La tentative d'enlèvement d'une jeune femme par un chauffeur d'Uber révélée par la célèbre Instagrammeuse Nina Scali suscite un déferlement de réactions et derrière une libération de la parole des femmes. Sachez-le, oui. Et elle raconte, d'ailleurs je vais essayer de retrouver ces extraits. Bref, beaucoup de femmes ont eu des sueurs froides. Certaines étaient obligées d'ouvrir la porte pendant qu'il roulait, le chauffeur d'Uber, et au risque évidemment de mourir. Donc l'une raconte qu'elle a ouvert la porte, qu'elle s'est retrouvée au sol, avec quelques égratignures. Heureusement d'ailleurs. Mais bon, elle a échappé au pire. C'est ce qu'elle raconte. Faut aller voir ça sur les réseaux sociaux. D'autres aussi disent qu'elles se sont retrouvées coincées, séquestrées par des chauffeurs ou par des faux taxis. Eh bien, parlons-en. Je voudrais qu'on en parle. Ces deux sujets. 01 53 48 3000. Ensuite, les débatteurs tout à l'heure, le face-à-face avec notre ancien commandant de la police, Monsieur Jean-Pierre Colombiès, notre conseiller régional, Philippe Nadjibouriaki, et enfin, notre journaliste, Thierry Vincent, et les Black Box, parce qu'il a écrit un ouvrage là-dessus, et aujourd'hui, on va en parler, puisque dans cette grève, pas mal de Black Box étaient présents. Il y a eu d'ailleurs, on peut noter ici et là, quelques incidents. Et puis, tout. Voilà, je vous ai tout dit, les amis. Bah alors. Allez, les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression, c'est parti.
Beurre FM, 18h, 19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
Allez, les auditeurs, à la parole, jingle.
01 53 48 3000, les informés vous donnent la parole.
Le standard est à vous maintenant, 01 53 48 3000. Le standard, Giovanni m'a dit, il faut que ça explose. Je suis prêt, là, je dégaine. Donc, il vous attend au standard. 01 53 48 3000. Deux sujets. Est-ce que Karim Benzema mérite son ballon d'or? Est-ce que vous trouvez que c'est une belle consécration? Ou pas du tout? Et vous nous dites les raisons pour lesquelles. Deuxième sujet, les chauffeurs d'Uber, si vous nous entendez. Chers amis chauffeurs Uber, eh bien, je voudrais vous entendre, ou toutes les femmes qui ont été victimes, eh bien, victimes, vous savez quoi? De tentatives d'enlèvement, justement, par Uber. Parce que ça fait l'actualité en ce moment et que ça circule pas mal sur les réseaux sociaux. Je voudrais qu'on prenne le temps d'en parler. 01 53 48 3000. Je veux vous entendre, évidemment, sur ces deux sujets. Le Ballon d'Or et Karim Benzema. Exactement. Et ensuite, les tentatives d'enlèvement, séquestration, bref, tout cela avec des chauffeurs Uber. Je voudrais à la fois entendre l'expérience, le témoignage des chauffeurs Uber, mais également aussi ces jeunes femmes qui ont été victimes de tentatives d'enlèvement. 01 53 48 3000. Krima, vous nous appelez du 94. Krima, bonjour.
Bonjour, c'est Karima de Créteil.
Karima de Créteil. Vous nous avez dit un bonjour, mais avec un sourire, un beau sourire, ça se voit. Plaisir, vous, on dirait, ça vous fait plaisir d'être là.
Ah bah oui, avec plaisir. C'est toujours un plaisir de vous écouter en rentrant le soir chez moi, après une journée de travail, écouter Adil sur la chaîne BFM.
Ça fait plaisir. Oh là là. Moi, je prends. Ça donne de l'énergie.
Au fait, je voudrais apporter mon petit témoignage par rapport à cette histoire d'Uber.
Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça sur les réseaux sociaux?
Exactement, au fait, ça a fait un bruit depuis quelques jours. Et puis, je pense que moi, ce qui me choque, au fait, c'est le silence, au fait, d'Uber. C'est un peu ça. Moi, j'ai vécu une petite expérience, rien à voir avec tout ça, mais au fait, moi, j'apporte un petit témoignage. Au fait, ça m'est arrivé il y a quelques mois. Au fait, je commande une course sur Uber, tout simplement, et puis le chauffeur arrive à l'heure, gentiment, il me dépose, et puis en arrivant, ce qu'il fait, c'est qu'il annule la course.
Mmh. Il annule la course. C'est ce qui s'est passé pour la jeune femme de 24 ans, figurez-vous.
Mais moi, au fait, naïvement, je l'ai cru. Il me dit, ah, madame, j'ai oublié d'activer. Au fait, il m'a tendu un truc, c'était pas clair. Il me dit, madame, je suis obligée d'annuler. Est-ce que vous pouvez payer espèce? Donc, moi, naïvement, j'ai dit, ok, ben, d'accord, c'est combien? Il me dit, tant, donc je paye. Mais, au fait, j'envoie quand même un message en demandant des explications à Uber. Parce que, au fait, quand vous annulez une course, ils vous facturent quand même un minimum. C'est-à-dire, il y a quand même 5 ou 6 euros qui sont facturés quand le chauffeur annule la course. C'était pas ça la question. Moi, ce qui m'a choqué, au fait, c'est le silence. Il n'y a aucun interlocuteur, il n'y a aucune réponse. Et depuis ce jour-là, moi, j'ai défini, au fait. Je commande un taxi, classique, quand j'ai besoin. Mais au fait, c'est quand même, on est dans une société, au fait, on vit dans le flou total, on n'a pas d'interlocuteur.
C'est pour ça que je voudrais entendre Karima, les chauffeurs d'Uber, justement, venir témoigner et nous raconter est-ce qu'ils ont déjà entendu des choses de leurs collègues, est-ce que ça a déjà fuité, et qu'est-ce qu'il faut faire alors à ce moment-là, chers amis qui nous écoutent, auditeurs. Karima, effectivement, maintenant, vous ne faites plus confiance à Uber.
Ah non. Enfin non. Au fait, il y a plus ce rapport de confiance. Je me dis, tout le monde finalement est libre de faire ce qu'il veut. J'ai plus envie de monter avec un inconnu.
Vous vous rendez compte le lien de confiance que vous mettez?
Et ça m'est arrivé au fait bien avant ces scandales-là. Et ça m'a mis le doute.
Ça craint.
Je me dis comment c'est possible.
Vous avez raison. Imaginez votre mère, votre sœur, votre femme. Enfin bref, n'importe qui quoi.
Au fait, au final, c'est quand pour tout. Il y a un vide juridique, il y a un vide quelque part, et c'est là où les problèmes arrivent. C'est là où les gens profitent de cette faille. Et c'est valable pour tout et dans tous les domaines. C'est pas normal, au fait, ce jour, on assiste à des choses pareilles. Et c'est la petite faille juridique, ou je sais pas comment appeler ça, qui fait que des drames arrivent. Et moi, ça me révolte.
Et en plus, lui, il a annulé la course en pleine... il vous a dit comme ça, clairement, j'annule la course.
Oui, au fait, je m'y attendais pas du tout.
Et vous avez capté le truc? Est-ce que vous avez senti le truc? Vous l'avez capté?
Je l'ai senti un peu tard. Au fait, tout de suite, j'ai pas réagi. Je m'étais dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais c'était, au fait, il a calculé le truc. C'était justement au moment où j'arrivais. Il m'a pas laissé le temps d'agir. Donc, naïvement, j'ai dit, ok, il vous faut combien? Mais c'est en descendant de la voiture que je me suis posé la question. Pourquoi il me fait ça? C'est pas normal.
C'est bizarre, ouais.
Et c'est là, je me suis retournée, il était plus là. Et quand j'ai essayé de demander des explications, au fait, c'est, c'est le flou total. Personne, au fait, on s'adresse.
Vous avez eu peur?
Je sais pas. Un petit peu, oui. Je m'étais dit, j'aurais pu quand même aller loin. Ah oui, complètement. Donc oui, ces choses-là arrivent, il faut lever le voile, il faut parler. Et c'est bien qu'il y ait parfois les réseaux sociaux, ça sert à ça finalement.
Oui, vous avez raison. Voilà. Merci de nous avoir fait partager, évidemment, votre témoignage, Karima. Et merci de votre fidélité, surtout. Merci à vous.
Je vous en prie, passez une bonne soirée.
Prudence à vous.
Au revoir.
Tiens, je vais accueillir Malik du 95. Bonjour, Malik.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que vous nous appelez de quelle ville du 95?
Argenteuil.
Bienvenue, on vous écoute, mon cher Malik.
Oui, alors, moi, j'ai deux sujets. Premier, c'est pour Karim Benzema.
Oui.
Alors Karim Benzema, il mérite le Ballon d'Or.
Il le mérite. Pourquoi?
Voilà. Pourquoi? Parce que l'année passée, il est classé le meilleur buteur. À son âge, franchement, il joue super bien par rapport aux jeunes. À 34 ans, il y en a quelques joueurs qui ont 25 ans, 26 ans. Ils n'arrivent même pas de jouer bien comme il faut, comme Karim Benzema, comme avant-centre. Lui, déjà, il joue en avant-centre. En même temps, c'est un meneur de jeu. Il distribue les buts.
Ouais.
Voilà, franchement, ouais, il mérite. C'est un bon joueur. Déjà, c'est en plus avec son fin de carrière. Elle n'est pas loin.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Voilà.
Eh bien, écoutez, deuxième sujet.
Voilà, deuxième sujet, au niveau de Hubert. Alors, en tant que moi, je travaille à Roissy-Charles de Gaulle.
Oui.
Alors, je vois tous les jours, les Hubert, comment ils fonctionnent dans leur tête, je ne sais pas.
Alors
c'est des gens, je ne sais pas. Bon, il y en a, c'est pas tous les mêmes.
Vous-même, vous êtes chauffeur?
Non, je ne suis pas chauffeur, non. Oui. Alors, je travaille à Charles de Gaulle. Voici Charles de Gaulle.
D'accord. Donc, rien à voir avec les taxis.
Ah non, rien à voir. Franchement, nous, déjà, on travaille, c'est pour libérer la circulation. Alors, si vous voyez Uber, comment ils gardent pour descendre leurs passagers, c'est incroyable.
C'est vrai qu'on est loin du traitement de faveur qu'avaient les clients, les usagers à l'époque.
Ah, franchement, et je ne comprends pas. Une fois, j'ai vu quelqu'un, même au pays, je ne l'ai pas vu. Elle avait trois passagers, les trois passagers derrière et devant, elle a mis tous les cabas. Franchement, le côté à droite, il ne voit rien du tout. Je ne comprends pas, la police font quoi?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, vous regrettez que le chauffeur Uber se comporte de façon un peu à l'anarchie, c'est-à-dire anarchique?
Voilà.
Voilà, sans respecter aussi, les règles.
Aucun respect.
Bon, moi, je ne généraliserai pas, parce que on est écouté par beaucoup, beaucoup de chauffeurs Uber, d'ailleurs, qui sont incroyables. D'ailleurs, je voudrais avoir leur expérience. Si les chauffeurs Uber nous écoutent, venez nous parler de cela, justement, je vous attends. 01 53 48 3000. Merci, Malik.
Je t'en prie, allez, bonne soirée, bonne continuation.
Et bon courage à vous, Malik.
Merci, au revoir.
Je vais juste accueillir Rabat. Bonjour, Rabat.
Ouais, allô.
Vous allez nous appeler de quelle ville du 77, Rabat?
De Mitry-Mory.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Rabat?
Je faisais de la sécurité au Sports Club de France.
Vous savez quoi, Rabat? Restez avec moi. Je vais juste marquer une courte pause et on se retrouve. On est d'accord? À tout de suite. 01 53 48 3000, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
Allez, bienvenue, 18h-19, justement, si vous venez de nous retrouver, les informés, c'est jusqu'à 19h30. On est ensemble sur deux sujets, justement, que je vous propose de venir à la fois, donc, commenter et témoigner, notamment. Le premier, c'est, est-ce qu'il mérite le Ballon d'Or, cette consécration ultime du Ballon d'Or? Vous le savez, hier soir, un carton, notamment, d'audience pour l'équipe TV, Karim Benzema, donc, a eu le Ballon d'Or. Est-ce que c'est mérité? Venez en parler avec nous, 01 53 48 3000. Et puis, mais également, on parle, vous savez quoi, de ce scandale qui circule sur les réseaux sociaux. Eh bien, nous parlons de toutes ces jeunes femmes qui parlent de leur tentative d'enlèvement par des chauffeurs Uber. On en parle, c'est tout de suite, c'est maintenant, y compris aussi, vous savez, cet événement, cet incident qui s'est déroulé à Lille, où un chauffeur Uber s'est fait agresser par, justement, deux clients qui sont connus du service de la police. Bref, quand on voit la vidéo, effectivement, c'est assez impressionnant. Allez, tiens, je vais retrouver Rabat et je vais aller accueillir Stéphane du 93, qui est justement chauffeur Uber, et Brahimi. Rabat, je vous retrouve. Ça va?
Bonsoir, Radi. Mais ça mène l'écho. Alors, mais je voudrais mais vous parler au sujet de Karim.
Alors, allons-y.
Au sujet de son ballon d'or. Oui. Bah, c'est complètement
mérité.
Mais c'est mérité, mais parce qu'il nous a fait une saison extraordinaire et nous a fait vibrer et frissonner. Il a été énorme, géant. Il était devant ses deux concurrents, Sané et le troisième de Bruyne. Mais Karim, il nous a fait une saison de fou. Tout le monde a vibré devant la télévision, quoi.
Exactement. Ben merci Rabat, vous avez raison de le rappeler. Effectivement, belle saison et c'est pour ça que d'ailleurs je vous sollicite pour savoir évidemment si ce ballon d'or est mérité. Une image très forte qui m'a beaucoup ému, c'est celle lorsqu'il appelle ses parents, sa mère plus particulièrement à ses côtés, qui était très fière d'ailleurs. Et à un moment, elle prend le micro, on lui demande de dire un mot. On voit bien que évidemment, elle était emportée par l'émotion. Revenons sur ce sujet des chauffeurs Uber. Stéphane du 93 Uber. Stéphane, bonjour. Allô, Stéphane? Stéphane? Vous êtes parti? Allô, Stéphane?
Oui, bonjour, vous m'entendez?
Très bien, vous nous appelez de quelle ville du 93, Stéphane?
De Sevran.
Sevran. On vous écoute, mon cher Stéphane, c'est une très bonne chose. Vous êtes chauffeur Uber, vous, hein?
C'est ça, je suis chauffeur Uber. Par contre, il y a des choses que je ne suis d'accord et d'autres que je ne suis pas d'accord.
Allons-y. Parlons-en, mais justement, c'est pour ça que moi j'ai ouvert l'antenne.
Justement, pourquoi? Parce que des fois, au niveau des clients, par exemple, un week-end, un vendredi soir et un samedi soir.
Oui.
Bon, les clients, ils arrivent comme des petites fleurs en début de soirée. Mais par contre, en fin de soirée, vu qu'ils sont alcoolisés, ils ont un comportement qui n'est pas adapté. Donc après, en tant que chauffeur Uber, je peux faire en sorte de les raccompagner en toute sécurité, sauf que s'ils dépassent les limites, moi, arrive à un moment, je suis pas un pantin. Donc, je suis obligé de défendre mes collègues. Bon, certes, il y a des choses qui sont passées. Là, je suis pas d'accord avec mes collègues.
Là, sur la série de témoignages, je sais pas si vous avez vu passer les vidéos, justement, où des jeunes femmes qui ont entre 25 et 30 ans témoignent de tentatives d'enlèvement. Ça, c'est pas inventé. Vous en parlez, vous, entre vous, ça, les chauffeurs d'Uber?
Moi, après, de base, moi, franchement, je m'en fous. Ce que je veux dire, c'est que. On a déjà parlé du sujet, mais bon, après, on n'est pas apte à faire ça. Pourquoi? Parce qu'on a des parents, on a une mère, on a une sœur, on a une femme. Donc, je pense pas qu'on va s'amuser à enlever des femmes comme ça, alors qu'on a ce même type de femmes à la maison.
Oui. Non, mais ça me rassure ce que vous dites, parce qu'en quelque sorte, vous dites... bon, il existe quand même ce phénomène, il existe, Stéphane.
Oui, bien sûr. Sauf que maintenant, après, il faut savoir une chose. C'est que les courses VTC, c'est-à-dire Uber Eats, Bolt, etc., sur n'importe quelle plateforme, les courses sont suivies. C'est-à-dire qu'on sait, la plateforme sait où est-ce qu'on récupère le client, où est-ce qu'on le dépose.
Oui.
Si par exemple nous restons dans des bouchons, je sais pas, par exemple 10-15 minutes, nous recevons une notification pour savoir si tout va bien de l'application. Donc c'est-à-dire qu'on est vraiment, tracé tout simplement.
Oui.
Donc comment on peut parler?
Qu'est-ce que vous conseillez à ces jeunes femmes lorsqu'elles sont victimes de tentatives d'enlèvement?
Bah déjà, tout simplement, en montant dans un Uber, vous allez sentir le chauffeur. Si vous le sentez, et si vous le sentez pas, vous essayez de prévenir vos proches dès le début, en fait.
Qu'est-ce que... J'ai pas compris. Si vous le sentez pas, vous dites quoi?
Vous prévenez vos proches par message ou quelque chose comme ça, en fait.
Oui, vous prévenez vos proches. Bon. Ça veut dire quoi, prévenir ses proches? Ça veut dire, en gros, leur dire
envoyer
que...
Envoyer un message et tout simplement mettre une localisation en direct pendant 8 heures sur WhatsApp. Comme ça, vous avez un suivi de l'itinéraire, tout simplement.
Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a la traçabilité de l'itinéraire du chauffeur Uber. Hein. Je veux dire,
exactement.
On le sait. Et puis, elles peuvent porter plainte et derrière, on peut même retrouver la personne.
C'est ça. Surtout que regardez, vous avez la plaque du véhicule.
Vous avez vu cette vidéo, mon cher Stéphane, d'un nordiste, d'un collègue à vous, Uber, qui s'est fait agresser par deux clients?
Non, j'ai essayé de la voir parce que j'ai cliqué dessus, c'était censuré.
Bah, je l'ai, moi.
Ah, bah, vous pouvez me l'envoyer si vous voulez. Hein.
Bah, on va vous l'envoyer, vous verrez.
D'accord.
Merci, Stéphane, pour votre témoignage.
Bah, merci à vous, surtout. Au revoir.
Au revoir, à très bientôt, 01 53 48 3000. Je voudrais vous entendre, tous, partout en France, deux sujets. On parle du Ballon d'Or avec Karim Benzema et son Ballon d'Or. Est-ce que c'est mérité? Et puis on parle aussi d'un autre sujet, c'est cette série de jeunes femmes. Jeunes femmes, quand je dis jeunes femmes, elles ont entre 25 et 30 ans, qui ont fait l'objet de tentatives d'enlèvement et bien par des chauffeurs Uber. Est-ce que vous faites encore confiance à Uber? Et puis les chauffeurs Uber, je voudrais les entendre aussi, comme Stéphane, venir témoigner de leur quotidien. Stéphane, par exemple, vient de me dire qu'il y a des clients qui se permettent certaines choses. Bon, vous savez, en fin de soirée, bah, quand ils sont alcoolisés, vous n'y pouvez rien, vous. Vous, votre rôle, c'est de les déposer à un point nommé. Après le reste, il faut signaler. Bon, et je sais qu'on est très, très écoutés par les chauffeurs Uber. Respect, chers amis. C'est aussi vous, les informés. Fatima, tiens, je vais aller chercher Fatima. Fatima de Paris, bonjour Fatima.
Comment ça va?
Très bien, ma chère Fatima.
Alors,
vous allez bien? Je vous
ça
écoute.
Ça va très bien, Abdoullah. Qu'est-ce qui se passe chez vous? J'ai l'impression d'écouter pas de RFM, mais de FM. Comment cette question?
Pourquoi Adil,
comment cette question mérite-t-il, Benzema mérite-t-il? Il le méritait l'année dernière. L'année dernière, c'était une victoire
volée. Je pose une question.
Hein?
Fatima, c'est une question.
J'ai compris,
C'est une question simple. C'est une question simple. Est-ce que vous pensez qu'elle est méritée? Moi, mon avis, c'est qu'elle est... D'ailleurs, je l'ai diffusée sur les réseaux sociaux, sur mes différents comptes de réseaux sociaux. Elle est amplement méritée.
Exactement.
Après, moi, je pose la question pour voir si nos auditeurs trouvent que, à leurs yeux, est-ce que Karim Benzema, voilà, cette consécration lui va directement ou pas, tout simplement.
Normalement, à Lille, cela aurait été le deuxième ballon d'or. Parce que Messi, il n'a rien. Qu'est-ce qu'il a fait la saison dernière pour avoir le ballon d'or? Alors que Benzema a tout gagné depuis le départ de Ronaldo. Il a tout gagné avec le Real Madrid. Donc, moi, je pense que c'est au contraire. Mais il y a une telle chasse à l'homme par certains médias que moi-même, hier, j'étais pas très sûre qu'il allait l'avoir. Ils étaient capables de le donner à quelqu'un d'autre et pas à Benzema.
Non, mais là, c'était obligé, là.
Exactement, c'était obligé. Et puis, c'était un régal et un plaisir de voir Benzema et Zidane.
Vous embrasse, ma chère Fatima.
Merci, Aoudi Adil. Je t'embrasse.
Elle a raison, c'est vrai que c'était... Merci, vous aussi également. C'est vrai que c'était un régal de voir Zizou et Benzema ensemble. Quelle belle image. Farid, vous nous appelez du 91. Quelle ville du 91, mon cher Farid? Bonjour. Vous nous appelez de quelle ville, Farid?
Corbeil-Essonne.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Farid?
VTC.
Ah bah tiens, merci de nous appeler, Farid. On vous écoute.
Et ouais, c'était pour dire que aussi Uber, le problème c'est qu'ils recrutent beaucoup de faux chauffeurs, faux permis, fausses cartes VTC.
Ah bon?
Donc il peut y avoir, donc il peut y avoir de reprises de justice derrière. Et le gouvernement...
Faux
le...
permis, faux carte... Mais c'est assez grave ce
que
vous dites.
Oui. Faux carte VTC, achetée comme ça au marché noir. Et y a
vous êtes sérieux, là?
Oui, bien sûr, totalement.
Et ça craint ce que vous dites.
Ça craint vraiment, et mes dires, vous pouvez les confirmer, notamment avec des vidéos d'un certain Brahim Ben Ali, syndicat INV. Et lui, il est vraiment très, très carré sur le sujet. Et il a proposé une solution, d'ailleurs, qui serait la dashcam. Qui permettrait de sécuriser le client ainsi que le chauffeur.
Okay.
Parce que les chauffeurs aussi sont agressés d'un côté.
Oui. Mais il faut qu'on l'appelle, tiens. Il se trouve que Philippe Lendjibouriaki vient de me dire qu'il le connaît. On va l'appeler?
Ah, lui, il va vous faire un tour complet du métier, de ce qui se passe, de ce qui ne va pas, et des petites manigances de Uber, notamment du lobbying, etc., et qui mènent à toutes ces dérives d'agression du côté client que du touriste ou du côté chauffeur aussi.
Vous en avez vu, vous, des choses, Farid?
Non, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. C'est vrai qu'il y a des clients un peu agités, mais généralement, ça se passe bien. Mais ouais, des fausses cartes et tout, ouais, j'en ai déjà vu pas mal, j'en ai connu. Après, moi, ceux que j'ai connus, c'est pas des gens à problème, c'est vraiment des gens qui ont malheureusement pas des papiers en règle ou pas les conditions nécessaires pour exercer la profession et qui l'exercent.
Bon, ben, bah, écoutez.
Ou sinon, pour Benzema, je suis très content. Et j'ai envie de dire, pour les petits jeunes, c'est un exemple d'attachement à la patrie, à sa double nationalité et de persévérance, parce qu'il a souffert, le pauvre.
Il revient de loin, hein, notre Karim Benzema international.
Je suis très très content pour lui.
Ouais, on est tous très contents pour lui, vous le savez. C'est une belle consécration. C'est une belle fierté, vraiment.
Inch'Allah, il aura la deuxième, et là, ça sera une légende. Il rentrera vraiment dans la légende. Platini, Zidane, Benzema, top.
Et à Ecopa.
Ouais, aussi, mais moi, tu vois, je connais plus ces deux-là, on va dire Platini et Benzema.
Et le dernier en date,
il s'appelle... Platini et Zidane, excuse-moi.
Juste avant Zidane, j'oublie son prénom. Non, il y a eu Zinedine Zidane. Avant Zinedine Zidane, il y a eu, comment il s'appelle, le Ballon d'Or?
Platini.
Non, avant, après. Mais non.
En français?
Ben oui, comment il s'appelle? Il y a eu Coppa, Platini, Papin. Oh, quand même. Ah bah voilà, Papin.
Ouais.
Donc il rentre dans les cinq français.
Non, voilà. Les cinq. Il est pour la deuxième maintenant. Et c'est bon.
Tiens Farid, vous savez quoi? On est avec justement le monsieur intersyndical VTC, monsieur Brahim Ben Ali, grâce à Philippe Nadji Bouayaki. Bonjour Brahim Ben Ali. Bonjour. Vous êtes avec nous, monsieur Brahim Ben Ali?
Oui, je suis avec vous, bonjour.
Vous savez.
Je ne sais pas si vous m'entendez.
Oui, vous êtes en direct, désolé. Merci. Vous savez, désolé de vous prendre comme ça en direct, c'est aussi le direct. On a eu un Farid du 91, un VTC, il est avec là, il est en
bonjour
direct avec nous.
Et vous écoute.
Farid nous a parlé de vous. Il nous a dit, il y a des magouilles qui se font, des faux papiers, des faux permis.
Bien sûr.
Dites-nous, vous pouvez nous éclairer, Brahim Ben Ali?
Alors, bon, bah déjà, merci de me permettre de pouvoir échanger avec vous.
Vous êtes dans les informés sur Beurre FM.
Eh ben, merci à vous. En tout cas, oui, effectivement, ça fait des années que je dénonce ça. J'avais fait un rapport pour expliquer qu'il y avait des réseaux qui s'organisaient pour créer des faux documents, des documents frauduleux via des applications comme Photoshop et j'en passe. Donc du coup, après, avec ces documents-là, ils vont s'inscrire au sein des plateformes numériques. Mais ils exploitent en fait les plus faibles, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont besoin de travailler. Donc ils vont les appâter en disant voilà, j'ai un package, j'ai un véhicule, j'ai un compte, et voilà, tu dois payer autant.
Oui.
Sauf que ces personnes-là, travaillent, sont exploitées. La plupart, il y a des fois, ce sont des sans-papiers, des gens qui sont connus par la justice et qui ne peuvent pas exercer. Donc c'est les plus faibles en fait finalement. Et on va les exploiter au max, comme les plateformes numériques. Et les plateformes sont complices parce qu'elles n'ont jamais vérifié ces profils-là.
Mais monsieur, ce que vous êtes en train de dire, Brahim Ben Ali, c'est très grave quand même, non?
Ben c'est très grave et j'assume mes propos, puisque je vous rappelle que moi, à l'époque, j'avais interpellé le ministère et j'avais réussi, et je vous le dis en direct, avec la complicité d'un des salariés de la plateforme Captain, qui est en procès d'ailleurs, parce que il y a eu des chauffeurs qui se sont inscrits frauduleusement au sein de la plateforme numérique avec des faux documents, et j'avais réussi à avoir des éléments à l'intérieur. Et j'avais amené ces éléments au ministère des Transports qui a été très sensible. Et je peux vous dire qu'on parlait de plus de 10 000 faux chauffeurs. 10 000
Aujourd'hui 10 000. En France, 10 000 faux chauffeurs?
Mais bien sûr. Moi, je vais vous poser une question.
Attendez, monsieur Brahim Ben Ali, c'est quand même beaucoup 10 000 faux chauffeurs.
Je vous parle de à l'époque. Attention,
à l'époque,
beaucoup
à l'époque.
Par rapport... Alors attendez, depuis, il y a eu donc un système de vérification... Et vous savez, hein, c'est comme, vous savez, les policiers et les voleurs, les brigands. Les policiers vont avoir des moyens techniques, les brigands vont s'améliorer. Ça a toujours été comme ça, c'est le jeu du chat et de la souris. Maintenant, il faut savoir
combien, aujourd'hui, vous estimez à combien les...
On ne peut pas parce que les plateformes numériques ne veulent pas partager le listing pour vérifier donc tous ces profils qui sont inscrits au sein des plateformes numériques. Qui serait capable de me dire combien de travailleurs de plateformes travaillent en France?
Oui.
Qui dis, est-ce que vous êtes capable de me dire, parce que là on va me dire, oui mais on regarde le registre des VTC, donc le registre des VTC c'est, vous savez, la signalétique rouge, le macaron, la famille...
Alors quand il y a un problème, on s'adresse à qui? À ces faux chauffeurs justement?
Quand vous avez un problème, mais vous allez vous adresser à ces faux chauffeurs? Mais non, vous vous adressez à la plateforme numérique, et la plateforme numérique va vous envoyer un joli message, donc automatique, d'accord, via un algorithme, pour vous dire, on est, oui, vous savez, bon, on a compris, c'est triste, merci, au revoir.
Mais alors Brahim Ben Ali, vous savez, notre sujet du jour aujourd'hui, dans les informés sur BFM, on parle de cette série de jeunes femmes, justement, qui ont fait l'objet de tentatives d'enlèvement par des chauffeurs Uber. Vous savez que ça a été révélé là, c'est même sorti sur les réseaux sociaux et dans les journaux.
Et je l'ai même tweeté.
Et vous l'avez tweeté. Alors vous dites quoi?
Eh ben, je vais vous rappeler quelque chose d'important. En 2019, j'ai organisé le plus grand mouvement social. On avait bloqué tous les bureaux partenaires en novembre 2019 en France. Ça a été relayé par Vice Magazine aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on dénonçait ça. Juste après, pendant qu'on bloquait les bureaux, il y a eu le hashtag Uber c'est over. Anna Toumazov nous a accompagnés. Donc j'ai envie de vous dire, depuis 2019, on avait alerté. Là, on est en quelle année? On est en 2022. Est-ce que les choses ont évolué? Ben oui, de pire en pire.
De pire en pire. Quand ces jeunes femmes font l'objet justement de ces tentatives d'enlèvement, certains d'ailleurs ont eu extrêmement peur, parce que c'est allé très loin. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Qu'est-ce que vous leur recommandez, vous, monsieur l'intersyndical des VTC?
La première des choses, il y a des éléments de réponse, c'est de regarder déjà la plaque d'immatriculation pour voir si elle correspond dans le plan de réservation, d'accord? Regardez déjà les éléments, c'est-à-dire vous avez une signalétique, une pastille, un macaron rouge qui doit être apposé à l'avant et à l'arrière du véhicule. Donc vérifiez si la plaque d'immatriculation correspond bien, donc du coup, aux éléments. Il y a aussi la carte apposée, parce que quand vous prenez en charge un client, vous devez apposer votre carte professionnelle sur le pare-brise. Voyez, donc vérifiez la photo pour voir aussi si elle correspond, d'accord? Et regardez tous ces éléments-là. Une fois que vous avez tous ces éléments-là, on peut garantir 80%. Il reste 20%. Les 20%, c'est que malheureusement, est-ce que cette personne-là n'a pas eu ses documents de manière frauduleuse? Et ça, c'est la grande question.
Eh bien, merci pour cet éclairage précieux, mon cher monsieur intersyndical.
Je voudrais juste ajouter un point.
Allez-y, monsieur. Allez-y, Brahim Ben Ali.
Ne faisons pas d'amalgame. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chauffeurs qui
sont... Vous avez raison.
Il y a des chauffeurs qui sont professionnels. Des formidables chauffeurs qui sont...
Eh bien, moi, je les connais et ils sont tous exceptionnels, vraiment. Et vous savez qu'ils sont nombreux à nous écouter tous les soirs?
C'est ça.
Et je les salue.
Tous les soirs. Et je voudrais juste ajouter quelque chose de très important. C'est que ces chauffeurs, aujourd'hui, subissent des déconnexions des plateformes parce qu'on les accuse à tort. On leur dit, il y a un client qui s'est plaint d'une agression sexuelle. Il y a des clients aussi qui sont malsains. Qui s'amusent à déclarer des fausses déclarations d'agression et j'en passe, vous voyez? Et ça, c'est pas normal. Donc aujourd'hui, il faut remédier à tout ça.
Merci, mon cher Brahim Ben Ali. Merci infiniment d'être intervenu en direct.
Je vous en prie.
À très vite et au plaisir sur l'antenne.
Et au revoir au chauffeur, Farid. Merci.
Absolument, Farid aussi, on le salue. Allez, on marque la pause et on se retrouve tout de suite après avec Mohamed du 78 et les autres 01 53 48 3000, et puis nos débatteurs influenceurs.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
Il est 18h44 précisément, les informés, avant de retrouver les débatteurs influenceurs le face-à-face. Je vais prendre tiens Mohamed tout à l'heure, qui nous appelle du 78, Mohamed. Bonjour Mohamed, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de quelle ville, mon cher Mohamed?
J'ai déjà appelé quelquefois les Mureaux.
Les Mureaux, oui, les Mureaux. Les Mureaux, je me souviens très bien de vous, mon cher Mohamed. On vous écoute.
Oui, ben, premièrement, c'est pour dire déjà que Benzema, c'était mérité.
Oui, c'est vrai.
Et c'est vrai qu'il a eu des casseroles. Enfin, il y a toujours des casseroles en route. Mais bon, le Ballon d'Or, c'est pour ses qualités footballistiques. Donc, ça lui a fait du bien déjà que Cristiano Ronaldo soit parti. Ça l'a éveillé encore plus au Real Madrid, qui lui a mérité le Ballon d'Or.
C'est vrai.
Et bah déjà, c'est fait avoir par Ribéry, on aurait dû en avoir un autre. Et bon, c'est vrai que l'année où Ribéry devait l'avoir, il ne l'a pas eu.
Oui.
Et aussi, je voulais parler des VTC. J'étais VTC aussi avant, mais votre auditeur avant ça a tout dit.
Il a tout dit, hein, monsieur Brahim Ben Ali. Hein.
Oui, oui, c'est ça. Bah, il y a deux cas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fraude au niveau des VTC, en fait. Et même au niveau des taxis, hein. Il y en a qui ont des licences et qui font conduire d'autres personnes pour faire tourner un peu les véhicules jour et nuit. Donc il y en a qui grugent un peu, comme on dit, mais qui font attention, qui mettent des personnes de confiance et d'autres non.
Bon.
Et ce qui est malheureux. Après, Et comme a dit l'auditeur précédent, c'est vrai que pour les clients, quand la voiture arrive, ils regardent la plaque d'immatriculation et surtout la carte VTC qui doit être sur le pare-brise.
Il a donné précieux conseils, hein, monsieur l'intersyndical. Hein.
Oui, oui, et surtout des fois, quelques applications mettent la photo du chauffeur. Donc, si ce n'est pas le même chauffeur que sur la photo, eh ben, annulez la course.
Tout simplement. Merci, mon cher Mohamed. Merci de votre fidélité.
Je voulais dire aussi, j'étais VTC moi aussi. Je voulais dire aussi, il y a certains clients qui sont malhonnêtes aussi.
C'est ce qu'il a dit, Brahim Ben Ali.
Oui, moi j'ai eu des problèmes avec des clients. D'ailleurs, j'ai arrêté le VTC parce que j'ai arrêté heureusement avant le Covid parce que c'était catastrophique. Mmh. Je louais une voiture. Et ce que je trouvais malheureux, c'est certains clients, c'est les clients rois. On ne doit rien leur dire. Et des fois, ils sont à 6 pour 5 places. Et ils veulent à tout prix monter à 6, donc on peut pas. Donc ils mettent des avis négatifs, clients mal polis à refuser, ou des clients qui mangent dans les voitures. On leur dit d'arrêter de manger, d'attendre que de sortir de la voiture, ça les plaît pas non plus. Bah, après des fois c'est un peu compliqué, surtout de nuit. Ouais. Avec les clients éméchés de sortir de boîte de nuit ou de bar.
Les clients
adorables avant de partir en soirée et après de partir en soirée, mmh. ça saute dans la voiture, ça met la musique à fond, c'est compliqué. Hein. C'est vrai que le transport de personnes la nuit, c'est vraiment, vraiment compliqué.
C'est un autre monde. C'est un autre monde.
Ouais.
C'est un autre univers. Merci, mon cher Mohamed.
Merci d'avoir laissé parler. Passez une excellente soirée.
Merci à vous, surtout, de votre fidélité. Allez, c'est parti tout de suite, le face-à-face.
Les informés. Le face-à-face.
Allez, je commence par notre conseiller régional. Bonjour, monsieur l'élu.
Bonjour.
Philippe Nadjiboyaki, on va ouvrir votre micro. Ce sera évidemment. Ah oui. Comment ça va?
Ça va.
Merci pour Brahim Ben Ali. Hein.
C'est normal, attendez.
Il est bon, notre conseil régional. Jean-Pierre Colombiès, ancien commandant de la police, mais également comédien. Je l'ai connu, meilleur, évidemment. Je sais pas, qu'est-ce qui vous arrive, Jean-Pierre Colombiès, là, vous êtes...
Mais moi, je suis...
Vous êtes loin. Votre corps est ici, mais votre cerveau est ailleurs.
Bonsoir à tout le monde, d'abord, et puis bonsoir à tous les auditeurs.
Qu'est-ce qui se passe, là? Disons tout.
Je suis pas bien. Le fait qu'on touche à un enfant, ça me perturbe. C'est quelque chose... J'ai jamais pu travailler à la brigade des mineurs, parce que, voilà, pour cette raison-là...
Pourtant, c'est un domaine que vous connaissez, vous avez été...
Oui, mais j'ai pas été à la brigade des mineurs, et le côté émotionnel, je pouvais pas le mettre de côté. Ouais. Arrêter des dealers, des tueurs, c'est un truc qui me va bien, qui m'allait bien. Travailler sur les enfants victimes, ça, voilà, j'aurais pas pu dissocier l'émotion du côté professionnel. C'est pour ça que je n'ai pas travaillé là-dedans. Et c'est vrai que cette affaire, les circonstances de cette affaire me...
On va en parler.
Mettre le ventre à l'envers.
Un journaliste, justement, il est avec nous. Il a écrit un livre consacré donc au Black Box qui s'intitule « Rappelez-nous, dites-nous tout, mon cher Thierry Vincent ».
Alors, bah oui, je fais un moment d'autopromo. Ils sont un peu agités aujourd'hui, donc c'est le moment d'en parler. Dans la tête des Black Box, vérité et idées reçues aux éditions de l'Observatoire, 19 euros seulement pour briller dans les vies en ville et ne pas dire de bêtises.
Allez, vous le procurez. Excellent ouvrage. Thierry Vincent, tout de suite, je vous donne la parole concernant la principale suspecte, vous savez, du meurtre de la jeune Lola. Elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Bon, on va en parler. Elle a entraîné de vives réactions, évidemment, de la part de tout le monde. Sauf que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il a dénoncé l'indécence de certains politiques. Et notamment, il dit la chose suivante, la récupération politique. Il fait allusion, clairement, au Rassemblement National, je pense.
Pas seulement, oui.
Et c'est, rappelons-le quand même, le meurtre de Lola, ce collégienne de 12 ans à Paris, retrouvée donc dans une malle vendredi dernier. Thierry Vincent.
D'abord, moi, ça me, comme Jean-Pierre, moi, ça me touche alors doublement, parce qu'effectivement, quand on touche aux enfants, en plus, il se trouve que ça s'est passé dans la rue où habitent mon fils et sa mère, et c'est dans le lycée où était mon fils. Donc, évidemment, ça me perturbe beaucoup, et c'est à 300 mètres de chez moi. Sur le meurtre lui-même, barbarie, atrocité, enfin voilà, il n'y a pas de mots assez forts, je pense que là, c'est pas la peine de s'étendre là-dessus. Ce qui m'a beaucoup choqué, effectivement, c'est que les politiques peuvent pas s'empêcher de récupérer un drame pareil, un peu de décence quand même pour la famille qui doit, la pauvre. Enfin, moi, toute ma compassion va à la famille, évidemment, j'ai pas envie de récupérer ça politiquement, et j'ai pas envie que ce soit récupéré politiquement, mais puisqu'on en parle, enfin, alors, tu dis le Rassemblement National, je suis désolé, il y a...
Ou Éric Zemmour.
On va en parler après, justement. Mais t'as envie de m'énerver, là. Hein. Éric Pogé, par exemple, député LR, je crois, proche d'Éric Ciotti, qui a tenu des propos invraisemblables. Enfin, en gros, si elle a tué, c'est parce qu'elle est algérienne. Enfin,
J'ai vu passer ça.
Effectivement, elle a fait l'objet d'une OQTF. Quel était le statut de cette femme? Elle n'était pas connue des services de police.
Ça, on n'en sait rien.
Attention, Jean. Elle avait un séjour étudiant qui est périmé aujourd'hui. Oui. Elle avait obtenu, donc, de façon légale en 2016. Oui, non, mais ça, alors, tiens, le commandant de la police, l'ancien commandant, l'ex-commandant.
Il faut attendre d'en savoir un petit peu plus.
Jean-Pierre Colombiès.
Sur le fait qu'elle a pu commettre quand elle était mineure, sachant que quand vous devenez majeur, on efface le passé du mineur.
Mais est-ce qu'elle était en France lorsqu'elle était mineure? Parce qu'elle est.
Elle est arrivée. Dans le micro, dans le micro.
À ma connaissance, elle est arrivée. D'après.
Elle était mineure.
Je me base sur ce que j'ai lu, mais elle est arrivée avec un visa d'étudiante.
Oui, oui, oui. C'est ça, visa d'étudiante. Qu'elle a eu de façon légale.
De façon légale, son visa n'a pas été. A expiré, elle n'a pas. Il n'a pas été renouvelé, elle est restée. Bon, elle est effectivement clandestine et illégalement ici, mais enfin, ça n'a pas grand-chose à voir avec les faits d'une telle atrocité. On dit qu'il faut expulser les délinquants étrangers, comme nous explique M. Pogé. A priori, elle n'était pas connue comme délinquante en France, non. En tout cas. Donc, on ne pouvait pas l'expliquer. Alors, effectivement, elle n'était pas en règle. Bon, mais qu'est-ce que ça a à voir avec les faits d'une atrocité pareille? Certainement quelqu'un qui est plus que psychiatriquement dérangé. Enfin, il y a eu Francis Holm, il y a eu. Enfin, je ne sais pas, on peut en citer plein. Je vois pas ce
moi, très
bien
en quoi l'origine de cette.
Non, mais ça crispe le débat, c'est évident.
Ouais. Ben oui,
c'est
ça évident, crispe ça, le débat ça, et ça met le débat sur un mauvais.
Oui, mais parce que ça se greffe.
Jean-Pierre Colombiès.
Ça se greffe à une autre polémique qui est toujours en cours d'ailleurs avec les fameux craqueux qui ont été arrêtés, présentés, enfin pas présentés, qui ont été déférés au centre de rétention, qui sont en attente de reconduite. Et tout ça, ça fait très mal à tout le monde. Parce qu'à partir du moment où on n'arrive pas à exécuter des décisions de justice ou administratives, c'est le cas, bien évidemment, ça fait un magma qui fait que même un fait divers comme celui-là, où on devrait dissocier d'ailleurs les deux aspects, on fait l'amalgame politique et on peut pas s'empêcher de le faire parce qu'il y a eu d'autres exemples. Moi je me souviens d'une affaire que j'ai relayée dans les médias qui avait été passée sous silence parce qu'elle était à quelques semaines de l'élection présidentielle. C'était le meurtre atroce d'une femme âgée de 92 ans qui avait été cambriolée, violée, massacrée et qui est morte de cette agression. Elle avait 92 ans. Et elle a été agressée par un Pakistanais en situation irrégulière, qui faisait l'objet
même de. Il y a des gens qui sont agressés
non, mais peu importe.
Et assassinés horriblement par des Français.
Enfin, mais c'est pas une raison.
Non, c'est pas une raison,
c'est
mais.
C'est pas une raison. Et donc, de fait, tout ça crée un climat particulièrement détestable.
Oui, tout à fait.
Et bien évidemment, c'est récupéré politiquement parce que c'est le fonds de commerce de certains. Ça, c'est indissociable. Mais bon, serait danoise, le meurtre serait tout aussi atroce.
Non, mais il faudrait quand même justement condamner cette récupération. Moi, je suis assez révolté. Alors, puisque tu parlais d'Éric Zemmour, enfin, quand j'entends parler de francocide, mais on marche sur la tête. Enfin, quelqu'un qui est tué, c'est Lola qui est tuée, elle n'est pas tuée en tant que française, elle est tuée par une espèce de psychopathe, j'en sais rien. Si moi on me tue, c'est un francocide. Ou c'est un yeux bleu aussi, d'un blond aussi, d'un journaliste ici. Oui, tout à fait.
Ça dépend des circonstances.
Non, mais c'est pas parce qu'un Français se fait tuer que c'est un francocide. Il n'est pas forcément tué en tant que Français.
Bien d'accord.
Éric Zemmour, il dit pas ça. Donc il y a quand même, on mélange un peu tout. Comme vous dites, c'est une espèce
mais
de magma.
Il y aurait, si je puis me permettre, une rigueur absolue du gouvernement. Et ça, d'ailleurs, cette situation ne rend pas service. Et là, il faut vraiment le souligner à ces millions d'étrangers qui sont en France et qui ne posent strictement aucun problème et qui sont parfaitement assimilés dans le tissu social. Voilà. Et quand il y a des faits comme ça commis par des étrangers, justement, ça crispe et ça cristallise. On ne parle que d'eux. On ne parle que de ça.
Ouais.
C'est ça le problème.
Philippe Nadjiboyaké. Et après, on marque la pause.
Évidemment, mes premières pensées vont aux parents de cette jeune fille. Moi, je suis père d'une gamine de 9 ans. Je suis contre la peine de mort, mais je l'ai dit plus d'une fois. Si ça m'arrivait, je ne me pose aucune question. J'aurais qu'une envie, c'est d'ôter la vie à la personne qui a ôté de manière horrible.
Ça vous traverse l'esprit. Mais bon.
Évidemment, ça
on n'est pas là, évidemment, pour faire l'éloge de chacun fait son règlement de compte. On ne peut pas laisser passer ça à l'antenne. Effectivement.
Non, c'est une réaction.
Je vous le dis parce que sinon, le CSA va me tomber dessus en me disant ouais, nous faisons la promotion maintenant des.
Non, on pourrait ouvrir le débat là-dessus. Parce que moi, quand j'ai vu les réactions des uns et des autres, je suis désolé, je suis persuadé que si on posait la question aujourd'hui à la population française, surtout après un événement comme ça, le oui l'emporterait largement. Donc le CSA, il faut qu'il entende qu'on est dans un pays démocratique et que des débats puissent s'ouvrir. Moi, j'ai quasiment pas dormi cette nuit. Ça m'a bouleversé.
Comme Jean-Pierre et comme nous tous. Vraiment. On marque une pause et on se retrouve tout de suite après, messieurs. Le débat continue. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farka.
Et les informés, c'est avec Philippe Nadji-Boriaki, les informés, c'est avec Jean-Pierre Colombet, c'est également avec Thierry Vincent. Philippe Nadji-Boriaki, je vous ai interrompu, évidemment, concernant donc l'affaire Lola. Je vous écoute avant de passer au sujet suivant, qui concerne la grève ce mardi noir. Est-ce qu'on peut considérer que c'était une journée noire? Philippe Nadji-Boriaki, concernant Lola, évidemment, la jeune collégienne.
La première chose, je te dis, moi, j'ai été perturbé toute la nuit, genre. Je n'ai vraiment pas dormi. Et cette récupération par l'extrême droite dès le matin, par Zemmour, Damien Rieu, Marion Maréchal Le Pen, enfin, ils s'y ont tous mis, et Éric Ciotti et consorts, c'était juste inadmissible, détestable, dégueulasse. D'ailleurs, c'est ce que j'ai tweeté hier, quoi. C'était à vomir, hein, cette récupération. Il y a un crime d'horreur qui a été commis. On est tous indignés. Et. Enfin, c'est leur fond de commerce, et donc à chaque fois, regardez Damien Rieu, à chaque fois qu'il y a un fait divers avec quelqu'un qui est d'origine ou qui est en situation d'être un étranger, c'est la première chose qui met en avant.
On va parler de ce second sujet, messieurs. Tout de suite, la grève, cette journée d'aujourd'hui, c'était un mot d'ordre, la hausse des salaires. Là, c'était la manifestation des salaires. On parle de 107 000 participants, selon la police, 13 000. Alors, manifestation pour les salaires. Était-ce un succès? Est-ce qu'on peut considérer que c'est une journée noire aujourd'hui? Notamment vous qui êtes spécialisé Black Bloc, il y a eu, je crois, 200 Black Blocs aujourd'hui.
Alors oui, à peu près 200, ce qui est pas mal. Hein. Bah, d'ailleurs, là, on est en train de voir les images. Oui, 200, c'est pas mal.
On les voit là, les Black Blocs.
Oui, ça suffit pour
foutre le désordre. On a noté quelques incidents.
Oui, il y a eu des projectiles jetés sur la police, il y a eu une barricade érigée à un moment, il y a eu une banque... vitrine de banque, qui a au moins une, hein, qui a été cassée, donc voilà, d'ailleurs, CIC, et un concessionnaire BMW aussi. Bon, enfin bon, ça reste dans des normes, on va dire, de enfin, acceptables. Je ne sais pas comment dire, mais disons, c'est pas exceptionnellement élevé.
Non, c'est pas
exceptionnellement élevé. Je veux dire, c'est assez... Voilà, c'est un peu du classique. Mais je pense que c'est que l'apéro qu'on va voir... beaucoup plus de violence.
C'est tout à fait possible.
Au fur et à mesure que le temps passe, quand les gens ils verront qu'ils peuvent plus chauffer en hiver, quand il y aura la réforme des retraites, quand il y aura tout ça.
Et avant le 49-3.
Et avant, on va en parler tout à l'heure.
Justement,
alors, un tour de table. Journée noire ou pas?
C'est lié.
Alors,
journée noire, je sais pas, je suis venu en métro. Donc, j'ai pu venir, ça marche normalement. C'était tout à fait normal, c'est-à-dire qu'on était serrés comme des sardines. C'était absolument insupportable, donc tout va très bien dans le meilleur des mondes. Ça fonctionnait à peu près normalement. Ce qui est intéressant quand même, c'est la multiplication des manifestations qui, à mon avis, risquent de monter en puissance, parce qu'il y en a déjà eu, il y a déjà eu le rassemblement de Jean-Luc Mélenchon, avec des réussites variables. La comptabilité, on pourrait en parler pendant des heures, puisqu'il y a la comptabilité PP qui est escalée.
Mais je pense qu'elle est plus proche des
dans le micro.
La comptabilité de la police, elle est un peu minorée souvent, mais enfin, elle est plus proche de la réalité que celle des manifestants.
Oui, c'est certain. Par contre.
C'est vrai, vous pensez, Thierry Vincent?
Oui, bien sûr. Il y a quand même pour moi quelque chose d'inquiétant. C'est quoi? Je vais essayer d'être très synthétique pour pas prendre le temps de parole des uns et des autres. Faut jamais perdre de vue une chose que je dis et que je répète ici. On veut pas toujours me croire, mais c'est pas grave. Emmanuel Macron est élu avec 80% des expressions de vote contre lui. Au premier tour, on est bien d'accord. Donc il y a 80% de la population de votants.
C'est votre analyse.
C'est mathématique.
C'est votre analyse.
75, il fait 25, je crois, à peu près.
Oui, bon, bah 75%. Allez, 75%. Vous me faites un prix à 75%, voilà. C'est très bien. Au deuxième tour, il est élu. On est bien d'accord avec le report de la gauche, clairement. Donc sa légitimité en tant que président de la République pour porter un programme, elle est toute relative. Elle est très relative. Elle est même loin d'être majoritaire.
Oui.
Donc cette volonté de passage en force sur tous les sujets, que ce soit sur le budget qui est en discussion et bientôt sur la retraite, elle est inflammable. Parce qu'ils avancent, lui et son gouvernement, comme si tout était acquis et comme si la population française allait applaudir des deux mains à son programme. Programme dans lequel très peu de Français se reconnaissent. Donc je dis simplement, attention, à vouloir constamment passer en force contre l'opinion publique et en plus, si possible, avec un 49-3, eh ben, continuons comme ça et très bientôt, on va avoir des mouvements sociaux d'une grande ampleur. Enfin, c'est mon analyse et je pense pas être très loin du.
Philippe Nadji-Boriaki?
Non, moi, ce qui m'a choqué aujourd'hui, alors, c'est 107 000 à travers la France et 13 000 à Paris, hein, selon la préfecture de police. Hein. C'est pas. Non, mais c'est ce que. c'est les chiffres.
Oui, 107 000 en France et 13 000 à Paris.
13 000 à Paris.
Oui, pardonnez-moi, c'est vrai que moi j'avais dit selon la police.
Ouais.
Pardon. C'est 107 000 participants en France, dont 13 000 à Paris.
Ce qui est beaucoup moins que Mélenchon, hein, en fait, que celle de dimanche organisée par LFI.
Ouais, enfin, il n'y avait pas qu'LFI, il y avait tous les partis.
Ouais, enfin, c'est moi.
Toute la gauche.
C'était un dimanche, là, c'est un jour de semaine.
Non, mais je remarque juste, c'était
venir manifester un jour de semaine, c'est poser une journée, c'est perdre des sous.
C'est compliqué, oui, c'est compliqué.
C'est compliqué. Tu as forcément plus de monde le week-end. D'ailleurs, les syndicats devraient plutôt essayer de le faire le week-end au lieu d'aller à la piscine ou à la pêche. Non, je déconne, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai vu des images tout à l'heure choquantes. C'est pas la première fois que je les vois, puisque j'avais couvert, y compris pour Adil, des manifestations où on voit les forces de l'ordre charger le service d'ordre de la CGT. On est chez les fous.
Ah bon?
Ouais.
C'est possible, ça?
Je sais pas, je l'ai pas vu.
Je peux pas m'exprimer
sur quelque chose que j'ai pas constaté.
Tu vas sur le Twitter d'Amar Touali et tu vois les CRS chargés, le service d'ordre de la CGT. Enfin, on est réellement chez les fous. Effectivement, il y a des revendications qui sont tout à fait légitimes, qui est de mieux vivre lorsque tu as une inflation de 7 points, lorsque tu as l'explosion des prix d'électricité, même si elle est bouclier énergétique, mais on sait qu'il va pas durer à vita eternam. Tu as aujourd'hui, je suis désolé, quand tu vas mettre du gasoil et qu'il est à 2,20 alors que le baril est à 118 $, je rappellerai que quand le baril était à 140 $, tu l'avais à 1,40 le litre de gasoil.
Il y a de la spéculation, c'est évident.
Donc là, on est bien clair qu'il y a des cibles qui sont en train de se gaver de fou sur le dos de gens. Tu le mettrais même à 5 €, les gens iraient mettre le plein parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont vraiment pas le choix. Et donc, à tout cela, lorsque tu sens une injustice qui est extraordinaire, quand tu as un CICE à 42 milliards, c'est le crédit d'impôt compétitivité des entreprises qui leur permet de payer 42 milliards de moins en impôts, quand t'as des super profits, et bah t'as cette grogne qui monte, qui part dans tous les sens.
Et là, ça monte, là? Est-ce que ça prend? Est-ce qu'on peut s'attendre demain? Là, on est à quelques jours des vacances, de la Toussaint. On est à quelques jours.
Ça peut prendre.
Ce
qui peut prendre, surtout ce qui peut dégénérer, c'est si les lycéens s'y mettent.
Absolument. Si c'est complètement d'accord.
Là, ça devient
Et les étudiants.
Sans
oublier. Ça a commencé certains lycées, pardon.
Thierry Vincent.
C'est Joliot-Curie à Nanterre, je crois.
C'est pour autre chose,
Joliot-Curie. Oui, enfin, bon, ils sont dans la danse aussi, ils vont facilement au lycée, mais qui a été évacué un peu, de manière un peu.
C'était peut-être. C'est pas social, là, je pense, Joliot-Curie.
Non, mais les lycéens, c'est pas social.
Non, mais les messages aussi ont un sens.
Jean-Pierre Colombiès.
Quand vous avez un PDG de Total qui augmente son salaire, sa rémunération de 50%, ça, c'est un. Enfin, pour moi, j'assimile ça à un crachat au visage de tous ceux qui bossent. Absolument. Tout simplement. Parce qu'on ne parle pas de 50% de quelqu'un qui gagne 1 500 € par mois. On parle d'un type qui touche des millions d'euros. Et là, le gouvernement, je ne dis pas que le gouvernement a la main sur une société de droit privé, mais la moindre des choses, c'est d'appeler au calme et d'appeler à la pondération et de ne pas rajouter, de mettre de l'huile sur le feu. Et c'est que ça. On n'a droit qu'à ça depuis des années maintenant. Ça fait 5 ans qu'on a une désinhibition totale, une indécence absolue. Absolue des ultra riches qui n'ont même plus la pudeur de retenir cette fortune.
Vous dites que le gouvernement, il peut pas tout faire, etc. Enfin, cela dit, il a refusé un amendement de sa propre majorité.
Oui, tout à fait.
Je crois pour taxer les super dividendes ou les super profits. Je sais pas.
On a bien compris de quel côté était Emmanuel Macron. Je crois que c'est
des ultra riches, en fait.
Oui, on est bien d'accord. Le message va constamment dans ce sens-là. Refus de réintégrer l'impôt sur la fortune, alors soi-disant qu'il ne rapporte pas suffisamment, ça je ne suis pas économiste donc je ne peux pas rentrer là-dedans, mais le refus aussi de la taxation des gros profits, ça alimente aussi cette grogne, cette colère, n'en rajoutons pas, ils ne font qu'en rajouter. Notre partenaire Philippe a parlé de l'augmentation du prix de l'essence à la pompe, c'est scandaleux. C'est une prise d'otage, c'est du racket fait sur les automobilistes. C'est pas acceptable. Il n'y a pas de pénurie d'essence.
Alors justement, parlons-en le carburant. Emmanuel Macron, lui, il dit, il se range plutôt du peuple, c'est-à-dire il les comprend.
C'est facile pour lui.
Et il dit, il tente d'accélérer la sortie de crise. Attendez. Il tente de sortir de cette crise, évidemment, et de trouver une solution. Vous savez qu'en ce moment même, à l'Élysée, il y a plusieurs réunions concernant donc face à la crise du carburant, qui s'éternise devant le risque de contagion du mouvement social, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Et puis il y a surtout un indicateur, c'est les vacances de la Toussaint vendredi. Et ça,
Macron, il veut l'éviter. Pour moi, c'est lié.
Vous dites quoi? Alors,
avec le débat de demain, tout va dépendre de ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. Si on a droit encore à un sketch de ce gouvernement.
Non, mais là, il y a les réquisitions.
Ah non, pour les réquisitions, on parle
des réquisitions du carburant.
Du carburant. Les réquisitions sur des gens qui ne sont pas en grève, tu m'excuseras, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Le réquisition, c'est sur quelqu'un qui est en grève. On le réquisitionne, on va le chercher chez lui, on le force à travailler. Aller réquisitionner, et c'est le cas. Des gens qui sont pas grévistes et aller les chercher chez eux, faut m'expliquer. On est là encore. On est chez les dingos.
C'est parce qu'ils pouvaient pas rentrer.
La Philippe Nadjiboy.
Oui, d'accord, mais
le truc, les non grévistes ne peuvent pas rentrer parce que là, il y a un vrai débat réellement. T'as les non grévistes qui sont en face des grévistes et qui ne peuvent pas rentrer, qui ne peuvent pas.
Mais c'est pas une réquisition. Alors c'est casser un piquet.
Mais oui, voilà.
Ouais. Non, mais c'est pas
une réquisition. Une réquisition pour ça.
Tu peux le faire sous réquisition, sinon tu peux pas.
Non, mais réquisition pour dégager les ouvertures, c'est pas la même chose. Pas
non,
pour
les chercher les gens. Tu réquisitionnes des gens pour pouvoir aller sur leur poste
mais de travail. Mais c'est pas eux que tu réquisitionnes.
Non, ils vont sur le poste de travail, si j'ai bien compris, de grévistes. Ils remplacent des grévistes, des non-grévistes remplacent des grévistes.
Non, mais là où on doit.
Clairement, est-ce que c'est pas une minorité qui continue de bloquer le pays?
Mais la question, c'est ça. C'était avant. On en arrive.
Alors, dites-moi.
Ça fait trois semaines, je crois, que le
oui, c'est ça, trois semaines.
Faut attendre trois semaines pour débloquer quelque chose. Quand Macron dit, c'est pas au gouvernement de régler un problème entre des partenaires sociaux ou des employés et une entreprise privée, on parle quand même de raffinerie. On parle quand même de ce qui donne, voilà, d'une économie stratégique. C'est ce qui alimente. C'est le cœur, c'est les artères, c'est les veines de la société. Ça l'intéresse pas de savoir qu'on va bloquer tout ça et que la société va être paralysée et qu'il y a un risque d'explosion sociale. D'ailleurs, si ça le concerne pas, faut qu'il fasse autre
chose. Thierry Vincent.
On peut se poser la question.
Justement, Thierry Vincent.
On peut se poser la question aussi si c'est une très bonne idée que Total soit privé alors qu'avant c'était public. C'est quand même un secteur stratégique. C'est quand même une vraie question.
On est bien. L'État reste actionnaire, l'État. L'État est encore
minoritaire,
oui.
De combien, mais enfin avant
34,
c'était...
non 34
pas,
enfin avant c'était à vérifier. Bon,
je sais pas.
Avant c'était totalement public. C'est pas incohérent. Je suis pas pour tout étatiser.
C'est pas illogique.
Enfin, c'est stratégique. C'est pas totalement illogique. Et on aurait peut-être pas ce problème de super dividende de PDG qui se demande de 50%. Enfin, c'est comme la privatisation des autoroutes, hein, où vous mettez n'importe qui, et Balladur, qui est dans le conseil d'administration d'une société d'autoroutes, enfin, etc. Bon, qu'est-ce que vous voulez quand ils voient ça, les gens?
Mais Adil, ça renvoie au débat qu'on avait avant sur l'ubérisation. C'est-à-dire, quand l'État décide de se débarrasser des bijoux de famille, comme on dit traditionnellement, et qu'on confie tout au privé, ben, faut pas être surpris qu'on ne maîtrise plus rien. L'ubérisation de la société, c'est ça. Je veux dire quand tu vois les chauffeurs de VTC honnêtes, chauffeurs de taxi, qu'on a handicapés justement par l'ubérisation maximum des transports de particuliers, on conduit à tous ces excès. C'est tout simple, c'est pas plus compliqué que ça, mais c'est une volonté qui remonte à très loin. Macron, c'est la catharsis de tout ça, mais c'est un mouvement de privatisation de tous ces moyens qui a débuté il y a des années.
Mais ça date de Thatcher, historiquement, Thatcher-Reagan, au début des années 80. La France était entre guillemets en retard, enfin, ou en avance.
On la rattrape.
Oui, malheureusement, à mon sens, mais c'est ça, c'est la révolution des néolibérales, néoconservatrices.
C'est ça, plus d'État.
Du début des années 80, plus d'État.
On fait confiance au marché.
Libertariens américains.
Oui.
Confiance au marché, ça fait ce qu'on voit là.
C'est ce qu'on voit
de télévision, là, qu'on a en face de nous.
C'est des grèves. La libération des marchés, c'est. Tout le passif, c'est le contribuable qui se le tape, et tous les actifs, c'est les boîtes privées qui le
font. Et puis,
c'est pas normal.
Pardon, on parle de libéralisation, mais enfin, le CICE, il y a beaucoup d'entreprises aussi qui sans les aides publiques, sans les aides d'État, s'en sortiraient pas aussi. C'est, je sais plus qui disait ça, d'ailleurs, c'est ce genre de citation qu'on a en tête, on sait plus jamais qui l'a dit, mais peut-être quelqu'un s'y mettra, mais c'était privatiser les richesses et nationaliser les
bénéfices.
La pauvreté, quoi.
Justement, le passif, c'est pour le contribuable.
Qu'est-ce que vous dites, vous, Philippe Nadjiboyaki, sur l'histoire du Caboran? Est-ce que je vous posais une question tout à l'heure? Est-ce que c'est pas une minorité qui bloque le pays, qui prend en otage le pays?
Alors, le mot prendre en otage est ultra violent. Moi, je reste toujours très perplexe sur ce mot-là, mais en tout cas, qui pose des difficultés au quotidien tout à chacun. Mais en vérité, pour être complètement ultra honnête, premièrement, eux, ils défendent leur beefsteak, et moi, je cracherai jamais sur quelqu'un qui défend son beefsteak, même si ça, par ricochet, ça me gâche, ça me gêne la vie au quotidien. Mais le souci qu'on a eu, c'est que, Adil, il y a de l'essence.
Bah oui.
Il y a de l'essence, moi, de toutes les stations. Tu attends 20 minutes, 30 minutes avant de mettre ton plein, alors qu'avant, tu le faisais en 5-6 minutes. Mmh. Ça, c'est un fait, certes, mais t'as des gens qui n'ont pas besoin de mettre leur plein, qui ont été mettre leur plein. C'est juste une station qui pourrait donner pour 3 000 véhicules le jour, elle se retrouve avec 6 000, donc forcément elle est à sec, ça crée l'effet boule de neige, l'effet panique, donc tout le monde fait la même chose, et donc le temps que tu recharges les cuves, elles sont déjà vides.
Oui.
Donc ça crée ce manque, et ça, est sacré, cette, ce...
Thierry Vincent.
Non, c'est exactement comme ce qu'il y avait sur le Covid. Ça, c'est le genre de truc qui m'exaspère. C'est une espèce de spéculation, d'anticipation, etc. C'est comme le Covid. Alors, il n'y avait plus à tout le monde. Alors, le papier toile, les pâtes, ils achetaient tous 15 paquets. Bah oui, bah,
c'est les vieux réflexes de guerre.
Il n'y avait pas de risque de pénurie, mais au bout d'un moment, il y a une.
C'est des vieux réflexes d'invasion et de guerre.
Ce que vous dites, Jean-Pierre?
Mais oui, c'est des vieux réflexes de guerre et d'invasion. Voilà. On ne peut pas s'en débarrasser. Dès qu'il y a une crise quelque part, je suis désolé, la guerre russo-ukrainienne avec tout ce qu'elle a de catastrophique pour les Ukrainiens et une partie des Russes quand même, parce qu'eux aussi meurent sur le front, quand même, au passage. Et les gens se sont projetés, jetés sur les rayons de pâtes, de riz et de pâtes.
Alors,
et
l'huile de tournesol,
c'est ça. Et l'huile de tournesol. Enfin, non, mais.
Le tournesol, il n'est pas encore récolté, en fait. C'est la saison d'après que ça se verra. Mais les gens ont anticipé, alors du coup, il n'y a plus d'huile.
Il n'y a plus d'huile.
Tu fais des
bords. Cet été, on se retrouve avec plus d'huile, hein.
Ah, bah oui, il n'y avait plus d'huile.
C'est introuvable. C'est introuvable.
Ramadan, guerre, donc forcément, non, je déconne parce qu'il y avait toute une polémique là-dessus où il y avait des spécialistes à CNews qui disaient, mais c'est à cause du Ramadan qu'il n'y a plus d'huile.
Bah, non, c'est vraiment, forcément à cause des musulmans. On peut toujours, à CNews, toujours, de toute façon, toujours. On peut toujours trouver un truc.
D'ailleurs, quand il pleut en France, c'est à cause des musulmans et des pays arabes.
La vague de chaleur nous vient du Sahara.
Quand il y a des puits de sable, quand il y a des puits de sable, c'est à cause du Sahara.
C'est ça. Non, messieurs, nous allons continuer d'avancer. 19h13, justement, Jean-Pierre Colombier s'en parlait tout à l'heure. Le 49-3. Alors, il sera probablement utilisé.
Oui.
Déclare Olivier Véran. Ça, oui. Évidemment.
La grande surprise serait que, par exemple, le texte ne passe tout simplement pas à l'Assemblée nationale. Il y a déjà des voix discordantes au sein de la majorité. Si vous avez une coalition de la NUPES, de l'extrême droite, enfin du Rassemblement national, on ne sait pas.
Avant qu'une motion de censure ne soit adoptée.
On est dans la politique politicienne. On a entendu des trucs quand même assez aberrants. Il y a quelques voix de pondération, je rappelle quand même ce qu'a dit Bayrou. Bayrou a dit que ce serait une erreur, on est bien d'accord. Oui. Ce Bayrou est bien secrétaire général du Modem. Nous sommes bien d'accord. Donc pour peu que ce 49-3 ne soit tout simplement pas voté, le gouvernement serait renvoyé dans ses cordes. Cela dit, ça renvoie quand même à un réflexe.
Non mais attendez, le 49-3 c'est sans vote, hein.
Il faut déposer une motion de censure.
Sauf s'il y a une motion de censure qui est adoptée.
C'est ça.
Voilà. On verra. Là, oui, ça se complique.
On verra.
Là, ça se complique.
Bon, enfin, le RN a dit entre les lignes, j'entendais. Comment il s'appelle je sais plus quel. Enfin, bref.
Un cadre.
On va pas dire le gros mot. Qui disait je sais pas ce qu'il y a dedans, on sait pas si on le votera, on va regarder si la NUPES en dépose un, mais en gros, ils vont pas le voter. Le RN, qui est toujours un parti très social, dès qu'il y a un mouvement social, comme par hasard, on les entend plus trop. Alors à la fois, oui, on défend les salaires des grévistes, mais quand même les pauvres Français pris en otage qui ont plus d'essence. Bon, ça c'est les ambiguïtés ou le double discours de l'extrême droite sur le social. Mais je crois pas qu'il puisse y avoir une coalition. Enfin, la NUPES, le RN, quelques LR.
Enfin, ça veut. Le message est fort quand même. Ça veut dire qu'on se passe totalement de l'expression populaire qui s'est exprimé au travers de l'Assemblée nationale.
Ça fait un moment. Ça fait plus de 5e République, ça. Quand Chirac a été élu avec 82%, c'est la gauche qui l'a fait élire. Hein. Il n'est pas certain du tout qu'il aurait gagné contre Jospin. Bon, bah après, la gauche...
De toute façon, c'est pourquoi il a gagné contre Jospin, mais c'est aussi un peu à cause de la gauche, quand même.
Mais il se sert de la gauche. Mais le
zizi. On est bien
d'accord. Chirac, il est élu parce qu'il y a la gauche aussi.
Bah oui, parce qu'il y a Chevènement, puis il y a Taubira aussi, qui l'ont bien aidé, au passage.
Ouais. Philippe Nadjibouyati, sur le 49-3.
Je pense que c'est une erreur lorsqu'il n'y a pas de débat démocratique et qu'au contraire, ça accentue les frustrations. Moi, je ne suis pas sûr. Je pense que le Rassemblement national voterait une motion de censure de la NUPES.
Moi aussi, je pense.
Ils ont
peut-être
gagné. Moi, je suis Marine Le Pen. La NUPES, je n'en regarde même pas ce qu'il y a dedans. Je fais voter parce que derrière, c'est dissolution. Et dissolution, ça sera les grands gagnants de...
Oui, malheureusement, ça risque d'être le cas. Et la NUPES, c'est sûr que les filles vont perdre beaucoup.
Énorme. T'as vu tous les couacs, etc. qu'il y a eu, ils ne s'entendent pas, ils ne sont jamais d'accord sur rien. Là, pour les européennes. Mais en plus, du coup, connaissant un petit peu Jean-Claude Mélenchon, c'est sûr que si demain il y a dissolution, il garde le logo NUPES parce que c'est lui qui l'a déposé, donc il n'est pas que con parce qu'il avait fait la même chose avec le logo front de gauche. Je sais pas si tu te rappelles le logo front de gauche, le PC a joué à vous l'utiliser. C'est mon gendre qui l'a déposé, il nous appartient, donc il faut nous donner l'autorisation. Donc là, du coup, il va leur faire payer très cher aux écolos qui veulent faire les rebelles pour les européennes. Ils vont dire pas de souci, présentez vos 577 candidats. Moi, je vais en perdre une vingtaine de députés, mais vous allez avoir zéro. Zéro. Et donc, en plus, ça remettrait quelques-uns à leur place, là, qui commencent à avoir un melon qui est extraordinaire. Ah non, c'est vrai, les gens, ils étaient rien. Aujourd'hui, ils sont députés, ils sont hors sol. Et c'est impressionnant comment le pouvoir
corrompt.
Complètement. Mais parce que J'ai remarqué ça, je vous le dis, moi, depuis que je suis devenu conseiller régional, je suis très sollicité, je suis invité à plein de choses, à plein d'événements. Et ça, c'est juste extraordinaire. Alors, j'y vais pas à tout, j'y vais à certains où je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, au regard pour apprendre et pour pouvoir entreprendre lorsqu'on sera maire d'Orly. Mais ce qui m'aide à garder les pieds sur terre, c'est ce que je fais tous les mois quand je reste la moitié de mes indemnités. Je suis l'élu au RSA des indemnités de fonction, donc ça m'aide à rester humble. Et puis surtout quand on va pour discuter comme hier après le 17 octobre, on a dîné ensemble avec certaines personnes. J'ai payé pour la tablée. On est, tu vois, ça m'a coûté 95 €. On était trois et on a mangé correctement. Mais ça évite d'être... T'es tout le temps invité, tout le temps sollicité, et tu mets jamais la main à la poche lorsque...
Monsieur Vauquier, par exemple.
Eh bien, messieurs, j'aime bien.
Lui, c'est d'argent public. Moi, c'est
c'est argent public, non, mais c'est justement...
On se retrouve dans une poignée de minutes, justement. Messieurs, les débatteurs influenceurs, à tout de suite, ne quittez pas. Pour la dernière ligne droite, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
Dernière ligne droite, justement, les 19h23, avec Jean-Pierre Colombès, avec Philippe Nadjiboyeki, et enfin avec Thierry Vincent. Messieurs, nous allons parler de cette guerre en Ukraine. Eh bien, après les drones, paraît-il, iraniens, voilà maintenant que l'Iran pourrait fournir des missiles à la Russie. Est-ce qu'on peut considérer que cette guerre est en train de prendre une autre tournure? Parce que les drones, on les a vus. Hein. Ils ont fait beaucoup de mal à Kiev. Hein. Thierry Vincent.
Bah, déjà, ça prouve que les Russes, ils ne sont pas si forts que ça. Hein, s'ils ont besoin d'acheter des missiles à l'extérieur. Enfin, bon, on l'a beaucoup dit, mais on a vraiment, vraiment surestimé l'armée russe. Et probablement Poutine l'a complètement surestimé. Après, ça change le cours de la guerre, moi, je crois. Enfin, je ne suis pas du tout...
Il y a des drones kamikazes, là. Il y a des drones kamikazes, là, qui survolent...
Oui, d'accord, mais enfin, une guerre... je ne suis pas un spécialiste de la question militaire, mais enfin, tous les militaires le disent, ça se joue beaucoup sur le moral des troupes, et en général, quand il y a un pays qui est occupé, c'est le cas, si on prend la guerre d'Algérie, par exemple, les Français...
Mais est-ce que ce n'est pas un nouveau cap qui est en train d'être franchi, justement, avec l'aide militaire iranienne?
Oui, mais
Jean-Pierre Colombès.
Mais l'Europe arme l'Ukraine à grand renfort de missiles, d'espions, d'encadrement logistique. Que la Russie soit aidée par l'Iran, ça prouve en tout cas d'une chose, c'est que la Russie n'est pas seule, déjà. Et que ce conflit n'est pas aussi diabolisé pour tout le monde. Tout le monde n'a pas le même regard sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie, ça me paraît évident. La Chine reste neutre, bon, enfin, je sais pas, ou alors quelque chose m'a échappé, mais elle n'a pas dénoncé l'agression russe, de mémoire. Donc, faut pas faire preuve d'angélisme quand on est au milieu de ce genre de guerre, où il y a bien d'autres intérêts que des intérêts de population ou de communauté. Il y a beaucoup d'intérêts économiques qui sont en jeu, ça on le sait très bien. Hein, c'est un petit peu Gazprom contre gaz de schiste, hein, quelque part. Je caricature un peu les choses, mais c'est un peu ça. Donc, que l'Iran, oui, effectivement, c'est surprenant que la logistique soit fournie par un pays comme l'Iran.
Sauf que là, Téhéran pourrait fournir des missiles.
Oui, mais comme ça vient d'être dit, fort justement.
Balistiques.
Moi, j'aurais plutôt.
Des missiles balistiques.
J'aurais plutôt pensé l'inverse. Que la Russie fournisse l'Iran en missiles, puisque Poutine se faisait fort d'avoir dans ses arsenaux des munitions et des armes de dernière génération.
Sauf que là, c'est une première depuis
le début. C'est
plus politique.
C'est politique. C'est une alliance de tous ceux qui sont contre nature, hein, de tous ceux qui sont contre l'impérialisme américain.
C'est ça.
L'Iran, régime islamiste ou islamique, république islamique, et la Russie, de logiquement, il n'y a pas grand.
Qui s'oppose, excuse-moi, mais l'Iran, c'est chiite. D'accord. Oui. Et l'Iran a pour adversaire quasi mécanique l'Arabie Saoudite et l'Israël également. Donc on est dans un conflit effectivement est. C'est un petit peu la guerre froide, c'est le réchauffement de la guerre froide. On a le bloc de l'Est avec les alliés de l'Est qui sont contre les alliés de l'Ouest. Et tu retrouves un petit peu les mêmes, de mon point de vue, les mêmes alliances qu'on avait un temps.
Avec la Syrie. La Chine,
tout à fait, complètement.
Un peu ambiguë.
Philippe Nadjiboyeki. Ouais.
C'est surprenant. Parce que. Effectivement, moi je te rejoins, on pensait plutôt que ça serait la Russie qui armerait, qui vendrait des armes aux autres pays. Là, c'est-à-dire que c'est une grande fragilité incroyable. Et puis en plus, si ça devait être le cas, à un moment donné, les livraisons, elles seraient arrêtées en cours de vol, parce que ils vont les livrer comment? Il y a plein de choses un petit peu étranges et mystérieuses dans cette histoire. Mais on peut reconnaître que tout le monde pensait qu'en 3 mois, ça allait être plié. On est à 9 mois, bientôt, au mois de février, le 24 février, ça fera 1 an.
ils n'ont aucune chance de gagner, les Russes. C'est impossible. T'as 40 millions de résistants en face. C'est pas possible.
Thierry Vincent.
Ça, parce que ces missiles, à mon avis, ça changera pas fondamentalement le cours de la guerre, parce que on gagne pas une guerre avec des missiles. Sinon, l'armement russe, il est plus fort. Ils ont des missiles. Alors, ils bombardent, ils tuent des populations civiles. Mais quand t'as un peuple qui est plus motivé qu'un autre, les Russes, ils y vont à contre-cœur. Enfin, c'est comme les Français en Algérie, les conscrits français en Algérie, les Américains au Vietnam. Oui, vous verrez raser le pays au napalm. Bon, ils étaient supérieurs militairement, mais finalement, ils ont perdu. Donc, moi, je crois que ça se gagne pas avec des missiles. Non, mais seulement la guerre, c'est le moral des
gens. Jean-Pierre Colombiès.
Là, pour moi, c'est clairement un geste politique, un geste international politique. Je voulais dire quelque chose, mais là, un petit peu perturbé. Non, mais ce conflit ne se résoudra qu'autour d'une table de négociation. C'est évident. Et la preuve, c'est qu'on assiste, pas plus tard qu'hier, je crois, à un échange, ou avant-hier même, à un échange de prisonniers. Alors, je suis désolé, les échanges de prisonniers, en général, c'est ce qu'on voit à la fin d'un conflit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux pays discutent. Tout simplement, ça se négocie. On fait pas un échange de prisonniers en se tirant dessus, c'est pas possible. Donc à un moment donné, ils ont créé une zone neutre. Et moi, j'en reviens tout simplement à quelque chose qu'on perd systématiquement de vue, c'est les fameux accords de Minsk. Minsk 1, Minsk 2, parce qu'il y a eu deux étapes. Il faudra très rapidement arriver à un Minsk 3 pour arrêter tout ça, remettre tous les partenaires autour d'une table et arriver à un accord qui satisfasse à peu près, je dis bien à peu près, tout le monde.
Je vois pas très bien quel accord peut être possible, parce que les Ukrainiens, là, ils sont en train de gagner du terrain. Pourquoi ils négocieraient maintenant? Là, ils sont en position de force.
Parce que le front. Un de vous deux disait tout à l'heure pourquoi la Russie, évidemment, se fait aider militairement par les Iraniens, parce que les stocks de missiles russes, commencent à s'épuiser un peu.
Et ça prouve bien qu'ils sont pas bons.
Moi, j'y vois un geste politique, mais bon, ça n'engage que moi.
Il y a les deux, mais c'est aussi un signe qu'il y a un aveu d'échec, et je trouve assez mignon pour la Russie quand même.
Carrément. C'est ce que vous dites aussi?
Ah ouais, c'est un aveu d'échec.
Un aveu d'échec.
En plus, en voyant que les drones là sont en train de taper des centrales électriques pour forcer les populations à subir le froid cet hiver, c'est plus qu'un aveu d'échec. Parce que là, tu vois bien que ça frappe pas des stratégies militaires ou des casernes, ça frappe des civils. Donc, mais le pire, c'est que ça va renforcer l'idée de communautarisme ou nationalisme ukrainien, et donc ça renforce Zelensky. Enfin, c'est un truc de fou. Il devrait capituler rapidement.
Merci pour ce beau débat. Merci à vous. Jean-Pierre Colombias, rappelons votre pièce.
Alors, plus pour longtemps, piège pour un homme seul.
Il connaît plus ça. Ouais.
Non, mais bon, c'est piège.
Il a oublié son texte.
Non, de Robert Thomas. Robert Thomas, auteur français, malheureusement oublié. Dommage, parce que c'est lui qui a écrit 8 femmes. Ça se passera jeudi et vendredi au théâtre de l'Athénée à Rueil-Malmaison. Je serais facilement reconnaissable parce que c'est le curé qui se trouve sur scène, c'est moi. Donc
excellent. Voilà. Thierry Vincent, rappelez-nous votre livre.
J'ai oublié moi aussi. Dans la tête des Black Blocs, vérité et idées reçues aux éditions de l'Observatoire dans toutes les bonnes librairies.
Il est assez bien distribué. Notre conseiller régional, à très vite, à bientôt.
Et co-porte-parole nationale de l'École du Centre.
Exactement, il faut le rappeler. Merci Philippe Ndiboyeki, merci Jean-Pierre Colombès, merci Thierry Vincent. À la réalisation, c'était le luxe, le grand luxe, deux réalisateurs. Un qui est en formation, d'abord il se débrouille plutôt bien, il s'appelle Salem Bravo. Et puis Giovanni qui est à ses côtés, évidemment, pour l'aiguiller, voilà, n'est-ce pas? Voilà, vous avez le droit à une clochette, c'est bien. Merci à vous deux, merci aux nombreux auditeurs, chaque soir. Mylène Edman vous donne rendez-vous de 20 à 21. Non, on me dit non, pas ce soir. Pas ce soir. Eh bien, demain, à demain avec autant de plaisir. Vanessa à 21h, ça reste d'actualité. À demain avec autant de plaisir, mais surtout...
On ne lâche rien, jamais.
Ciao, à demain.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.